Moi, j'ai préparé quelques trucs là parce que sur la dette, puisque c'est l'objet de le débat, je m'appelle Patrick Gianfaldoni, je suis maître de conférence en sciences économiques à l'Université Lyon 1 et je suis aussi militant d'Attaque Pays d'Arles. Et à ce titre, je vais animer un débat sur la dette dans les pays du Sud, la dette dans les pays du Nord, et en prenant le cas de l'Argentine en particulier, pour montrer en fait les logiques néolibérales et leurs conséquences à la fois économiques, politiques, idéologiques et sociales. Donc je me suis permis de préparer une petite intervention en essayant d'être clair et surtout en essayant d'exposer un certain nombre de problèmes que j'ai pu voir évoquer ces derniers temps en ce qui concerne donc non seulement la dette au sens général du terme, pas seulement des pays du tiers-monde, de l'Argentine, de la France ou des États-Unis, mais la dette mondiale, et puis d'autre côté, essayer de s'interroger sur, à travers la dette, sur des logiques différentes quant au développement, quant à la possibilité de développer d'autres types de croissance économique et une autre économie, quoi. Donc, je vais essayer d'être à la fois concis, mais prendre mon temps, parce que les choses ne sont pas faciles à comprendre. Donc, l'objectif, a priori, c'est que je puisse expliquer ça et que ce soit clair. Donc je vais prendre mon temps, à peu près une trentaine de minutes, hein. Tout d'abord, je suis revenu sur la dette. Je me suis interrogé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est la dette, et qu'est-ce qu'on entend par dette? Alors, de manière générale, quand on parle de dette, on parle de créance. En clair, il y a un débiteur, il y a un débiteur, il y a un créancier. La dette a une valeur monétaire. Mais si on va un peu plus loin, la dette peut être aussi considérée en termes de valeur non monétaire. C'est-à-dire qu'il y a un dû, et souvent dans la société, on doit quelque chose. On doit quelque chose à ses parents, on doit quelque chose à ses amis, on doit quelque chose à quelqu'un qui nous a fait une faveur ou qui nous a permis d'avoir un travail, etc. Donc la dette, elle va bien au-delà de la valeur monétaire. Et dans nos sociétés, on est une société de dette généralisée, hein. Dans tous les réseaux, dans toutes les organisations, on a des centaines et des milliers de dettes, hein. Et puis, la dette, ça a aussi une valeur non marchande. La dette, c'est un instrument économique. De tout temps, la dette a été utilisée pour faire en sorte que la société fonctionne, pour faire en sorte qu'il y ait plus de monnaie. Et l'État ne s'est pas privé, dans différentes nations, différents pays, d'utiliser la dette pour développer de la croissance économique, de l'emploi, etc. Non pas dans une visée marchande, non pas pour faire du pognon par rapport à des intérêts, mais comme un instrument de politique économique. Donc c'est une valeur non marchande, monétaire, mais non marchande. Enfin, la dette, ça a une valeur politique. La dette, tout un chacun ici, quand même, est conscient que la dette est usée, utilisée et usitée par la plupart des pays dits industrialisés vis-à-vis des pays dits du tiers-monde comme un instrument de domination sociale, hein, car on endette les pays pour pouvoir les tenir. Hein, puisqu'ils sont endettés, on va pouvoir non seulement leur fourguer nos armes, et puis en même temps, eh bien, ils ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Donc là, on a une dette en termes de domination sociale. Enfin, la dette, il faut aussi la considérer dans le champ des valeurs et des représentations. En termes d'héritage, de patrimoine, de legs, en clair, quand on raisonne sur le développement durable, la définition du développement durable, c'est essayer, je simplifie outrancièrement, essayer de laisser un monde tel qu'il est aujourd'hui. En clair, on a une dette vis-à-vis des générations futures. Donc là, la dette a une consonance très patrimoniale et en termes d'héritage social et symbolique. Alors pourquoi maintenant la dette a-t-elle une telle puissance symbolique? Quand on parle de la dette, il y a ceux qui disent oh, la dette c'est tellement important, et puis d'autres qui disent bon, mais de toute façon, il faut bien qu'ils payent, ceux qui sont endettés, ben, ils doivent payer. Alors tout d'abord, pour comprendre la puissance symbolique de la dette, il faut évoquer, il faut énoncer quelques chiffres. Alors j'ai sélectionné quelques chiffres sur la dette. La dette de l'Argentine en 2003, c'est 180 milliards d'euros. Environ, hein, on n'est pas à quelques millions près. Soit presque une fois et demie son PIB. En clair, la dette de l'Argentine équivaut à 1,5 fois ce que l'Argentine produit comme richesse économique. Donc on peut dire que l'Argentine est très endettée. 40 milliards sur ces 180 sont dus à des Argentins. 50 milliards sont dus à des gouvernements et des institutions internationales, comme le Fonds monétaire international. 90 milliards sont dus à des banques et des prêteurs privés. En clair, l'Argentine, en tant que pays, est endettée vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ses citoyens, mais est endettée surtout vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est là où est la puissance de la dette en termes de domination sociale. Mais si on regarde maintenant la dette publique et privée aux États-Unis d'Amérique, je spécifie les États-Unis d'Amérique, la dette aux États-Unis d'Amérique est de 22 000 milliards d'euros. Donc j'ai fait le rapport. La dette des États-Unis d'Amérique représente 49% de la dette mondiale. Donc à eux seuls, les États-Unis d'Amérique, c'est 50% de la dette globale du monde. Le tiers-monde, la dette du tiers-monde représente 5% de la dette mondiale, c'est-à-dire quasiment rien, et 10% de la dette des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, finalement, on pourrait tout à fait effacer la dette du tiers-monde si on tenait compte du poids de la dette des États-Unis d'Amérique. En clair, il faut démythifier ce que représente la dette. En clair, quand on fait peser une dette sur des pays, voire sur le tiers-monde dans son ensemble, en disant « il faut qu'il paye, on ne peut pas faire autrement », etc., à ce moment-là, on n'est pas dans une position technique, on n'est pas dans une dimension économique, on est vraiment dans une dimension de la domination sociale et politique. Le tiers-monde a effectué 300 milliards de dollars de remboursement depuis 1999. Je répète, 300 milliards de dollars de remboursement en 99. Ce qui est l'équivalent, en calculant, on a fait des calculs, hein, ce qui est l'équivalent à monnaie, enfin à dollars constants, l'équivalent de 4 plans Marshall. En clair, en 99, le tiers-monde a payé 4 fois le plan Marshall de la pré-Deuxième Guerre mondiale. Et entre 1980 et 2000, le tiers-monde a payé l'équivalent de 43 plans Marshall. En clair, le tiers-monde paye. C'est faux de dire qu'ils ne payent pas, ils payent leurs dettes. Alors maintenant, toujours pour démythifier cette dette, il faut savoir que la dette mondiale, qui représente 45 milliards d'euros, vu le poids des États-Unis, 50% de ces milliards, il faut savoir qu'il y a possibilité d'annuler la dette. On a vu des mouvements pour annuler la dette. Il faut savoir qu'en 1953, 51% de la dette de guerre allemande a été purement et simplement annulée. Alors bon, pour ceux qui aiment l'histoire, on comprend très vite pourquoi. En 1953, on annule 50% de la dette allemande de guerre. Il y a un petit problème vis-à-vis de l'Est de l'Europe. Et donc, on fait en sorte que l'Allemagne de l'Ouest se relève très rapidement. Et un des moyens qu'elle se relève, c'est d'annuler la grande partie de sa dette. Alors évidemment, d'où vient cette dette? On peut se poser la question. Quelques petits rappels historiques. Très rapides, parce que ce n'est pas le cœur même de ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. La dette, en fait, date du début des années 60. À partir du début des années 60, les pays du tiers-monde, certains pays du tiers-monde, vont commencer à s'endetter auprès des pays créanciers, des banques, des pays du Nord, comme on dit, des pays riches. Ils vont commencer à s'endetter dans des plans de développement, c'est-à-dire qu'ils veulent rattraper notre société. Certains pays de l'Est vont suivre, comme la Yougoslavie. La Yougoslavie va s'endetter à partir de la fin des années 60. C'est une période qui va voir naître ce qu'on appelle des euro-dollars. En clair, le dollar, il y a une planche à billets qui fonctionne à plein aux États-Unis. On est en pleine guerre du Vietnam. Et cette planche à billets qui fonctionne à plein va avoir pour conséquence que des milliers et des centaines de milliers et des millions de dollars vont circuler dans le monde. Et ce qu'on va appeler les euro-dollars, c'est-à-dire qu'il y a plus de dollars qui circulent dans le monde à la fin des années 60 que ce que la banque des États-Unis, la Federal Bank, peut donner en réserve d'or. Le dollar étant convertible en or, si à ce moment-là, à la fin des années 60, les principaux pays industrialisés avaient demandé leur dû d'or par rapport au dollar qu'ils détenaient dans leur coffre, les États-Unis ne pouvaient plus payer. Il faut savoir qu'à l'époque, le général de Gaulle avait demandé aux Allemands un plan pour faire payer les États-Unis en or. Les Allemands ont refusé. On sait pourquoi, puisqu'en 1953, les États-Unis avaient annulé 50% de leurs dettes. Donc il était logique que l'Allemagne ne suive pas la France. Mais il y avait cette idée chez de Gaulle. C'est pour ça qu'en 1971, les États-Unis, c'est une des raisons, mais la raison principale, en 1971, les États-Unis décident d'abandonner la convertibilité en or. Ils savent qu'ils sont extrêmement faibles. Et donc, ils abandonnent le système dit de Bretton Woods, cette convertibilité en or. Le dollar n'est plus la monnaie de référence convertible en or. On rentre dans une époque qui est dite époque de monnaie flottante, de change flottant. C'est-à-dire les monnaies flottent les unes par rapport aux autres. On a des phénomènes de variation de valeur de monnaie les unes par rapport aux autres qui sont très fortes. Et la spéculation va se développer. Alors, les années 70 sont des années où vont apparaître ce qu'on a appelé les pétrodollars. En 73-74, premier choc pétrolier, très forte augmentation du prix du pétrole. Les grandes monarchies du Golfe, en particulier, vont encaisser des dividendes, des rentes pétrolières. Évidemment, ces milliards de dollars, ils ne savent pas quoi en faire, et ils vont les mettre dans les banques, et les banques européennes et nord-américaines. Ces milliards de dollars qui sont dans les banques nord-européennes, enfin, européennes et nord-américaines, eh bien, vont servir à financer de nouveaux projets des pays du tiers-monde. Clair, net et précis. Pour financer ces projets, les banques font des conditions aux pays du tiers-monde très favorables. Les taux d'intérêt sont très faibles. En clair, on vous prête et on vous fait un taux de 4-5%, donc vous pourrez rembourser facilement. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de 1979, l'époque change à nouveau. On rentre dans une époque clairement, et je dirais pour longtemps, néolibérale. 1979, c'est l'arrivée de Thatcher, puis de Reagan aux États-Unis, qui vont changer radicalement les types de politiques économiques. On bascule complètement vers des politiques néolibérales, des politiques qui se traduisent rapidement par une forte hausse des taux d'intérêt. Alors, c'est facile à comprendre, vous êtes un pays du tiers-monde, vous avez emprunté à 4-5, et maintenant, on vous demande de rembourser à toujours 4-5. Mais si vous voulez à nouveau emprunter pour payer, on vous demande donc d'emprunter à 14-15%. Les taux d'intérêt ayant fortement augmenté, on rentre dans une époque où les pays du tiers-monde ne peuvent plus rembourser, y compris rembourser les intérêts de leurs dettes. Tout simplement parce que les taux d'intérêt, maintenant, ont explosé, sont passés de 4-5% à 14-15%. Alors, on rentre dans une époque donc néolibérale, forte hausse de taux d'intérêt et développement de la dette. La dette publique s'envole dans les pays du tiers-monde, mais pas seulement dans les pays du tiers-monde. Quand on regarde les chiffres des pays dits du Nord, les États-Unis, la France, etc., c'est une époque où les dettes s'envolent. En France, par exemple, on passe quand même en 20 ans d'une dette à peu près de 20-25% à une dette qui avoisine 60% de la richesse économique. Donc la dette française s'est elle aussi envolée. Cet effet, donc, c'est appelé effet de boule de neige, le fait qu'à un moment donné, à travers un phénomène de taux d'intérêt, les pays ne peuvent même plus rembourser les intérêts de leurs dettes et empruntent à nouveau pour payer, ainsi de suite. Un effet boule de neige, évidemment, dont ils ne peuvent sortir. Alors maintenant, à partir de là, je voudrais problématiser. Problématiser la dette, tout d'abord, vous montrer que cette dette correspond à une transformation contemporaine du capitalisme. Premier état de fait, la globalisation du capital financier. Nous sommes rentrés clairement depuis plus de 20 ans dans ce que l'on appelle la globalisation du capital financier. Cette globalisation, pour vous la définir, je reviendrai sur la règle des 3D. Au niveau de la finance, le premier D, c'est le décloisonnement. Il y a une vingtaine d'années, quand vous vouliez acheter des actions, mettre votre épargne en actions, en titres, comme on dit, bon, il y avait quelques titres offerts, mais c'était très simple. Aujourd'hui, vous avez de multiples produits financiers qui sont décloisonnés. Vous pouvez acheter et vendre, minute après minute, ces produits. Vous pouvez faire des mix de produits. Donc, on a décloisonné les marchés. En clair, c'est comme si vous allez dans un hypermarché où vous avez deux rayons. Vous dites, bon, on va acheter un peu comme dans les pays de l'Est des années 70 et 80. Vous aviez très peu de produits, du standard. Et puis, en quelques années, maintenant, on vous propose 100 rayons. Mais là, c'est pareil, il y a eu un phénomène de décloisonnement, c'est-à-dire un potentiel donné aux épargnants et aux gros épargnants, aux rentiers, de pouvoir acheter différents titres et de pouvoir les échanger très rapidement. La deuxième règle, enfin, le deuxième point de la règle, c'est la déréglementation. Il y a eu un phénomène de déréglementation des marchés financiers nationaux. Jusqu'au début des années 80, les marchés nationaux étaient réglementés. En clair, on ne pouvait pas faire n'importe quoi sur les marchés nationaux. Un investisseur ou un épargnant étranger avait des règles à respecter. À partir du début des années 80, y compris dans un pays moins néolibéral comme la France, il y a eu déréglementation. Les capitalistes ont pu placer de l'argent, récupérer de l'argent, échanger minute après minute. Donc, et les règles sont tombées les unes après les autres. Alors pour quelles raisons y a-t-il eu déréglementation ? Dominique Plion, le président scientifique d'ATTAC, a bien expliqué ça dans un bouquin. Il montre en fait que si on prend le cas de la France, la France, au début des années 80, est confrontée, comme les autres pays, donc, aux problèmes économiques, crise économique. L'État français a besoin d'emprunter. L'épargne française n'est pas suffisante. Pour pouvoir emprunter, le gouvernement français va déréglementer pour capter l'épargne internationale. tout simplement. Et donc, il va participer largement et très largement à la déréglementation financière. Tout simplement parce qu'il veut s'endetter pour pouvoir continuer à financer la protection sociale, à financer l'aide, etc., tout en continuant à avoir un budget militaire de 15 à 20%. Et donc, il emprunte. L'épargne nationale n'est pas assez suffisante. Il emprunte sur les marchés internationaux. Et il déréglemente. Donc, vous voyez que les États, y compris des États moins néolibéraux comme l'État français, ont largement participé à la déréglementation. Troisième D, la désintermédiation. Ici, on a assisté à un processus où les banques ont joué de moins en moins le rôle d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez tout à fait directement aller sur le marché financier, emprunter ou épargner sur le marché financier. Il y a de moins en moins d'intermédiaires. Alors, la conséquence de cette règle des 3D, ça a été une très forte fluidification de la circulation monétaire entre les grandes places financières. Le chiffre qui est souvent cité, c'est le chiffre de 1995. Quotidiennement, circulent de place financière à place financière, journalièrement, 1500 milliards d'euros. En clair, tous les jours. Enfin, c'était en 1995, nous sommes en 2004, donc les 1500 milliards d'euros, aujourd'hui ça va être 1800 milliards d'euros, hein, quotidiennement, on a cette somme qui circule de place financière à place financière. En clair, vous avez des agents qui achètent et qui vendent des titres 10, 20, 100, 150 fois par jour. Et qui chaque fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la spéculation. Ils empochent 1 euro, 3 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros. Mais comme ils le font 100, 200 ou 300 fois, à la fin de la journée, ils multiplient ces jackpots. Alors, le phénomène central donc, de cette globalisation financière, du capital financier, c'est la montée en puissance des flux de capitaux à court terme, c'est-à-dire la montée en puissance de la spéculation. Nous vivons dans un monde extrêmement spéculatif. Quand nous regardons, ce qu'on fait, nous les économistes, on regarde les chiffres des balances des paiements, c'est-à-dire ce qui circule en capitaux de pays en pays, on s'aperçoit que le chiffre des capitaux à court terme, des flux de capitaux à court terme, est un chiffre faramineux par rapport à l'investissement, par exemple, hein, ou par rapport au commerce. Aujourd'hui, le commerce représente 10% de ce qui circule dans le monde en capitaux. Donc un pays qui aurait un bon commerce extérieur, comme on disait à l'époque de 82-83, eh bien, c'est pas pour ça qu'il se portera bien économiquement. Il suffit qu'il mène une politique économique qui est contraire aux capitalistes, les capitaux s'en vont. Il n'y a plus de règles. Deuxième état de fait, la mondialisation du capital industriel. Alors ça, c'est très important. C'est très important parce que nous sommes passés des années 50-60 où il y avait une internationalisation des pays, où on échangeait essentiellement en exportant, en important. C'est une époque où, bien sûr, les firmes s'installaient dans les pays, mais quand même, à grande dominante, le commerce international se faisait par les exportations. On vendait à l'étranger, on achetait à l'étranger. Puis, les années 60, on a une généralisation du phénomène de multinationalisation. En clair, les grandes entreprises, européennes et américaines pour l'essentiel, nord-américaines, s'implantent dans différents pays. Elles le font pour deux raisons essentielles. Première raison, des raisons de coûts productifs. C'est Vuitton qui va implanter des usines en Chine parce que ça lui coûte 10 à 20 fois moins cher en coût de main-d'œuvre. Ce qu'on a appelé la stratégie des firmes ateliers. Deuxième raison, c'est la stratégie des firmes relais. On s'implante pour aller plus près du marché. Et donc General Motors, la première firme qui a développé cette stratégie dans les années 1920, ben c'est l'idée qu'on vient en Europe parce qu'on veut voir comment fonctionne le consommateur européen. Donc il vaut mieux avoir des sociétés en Europe. Donc cette ère de la multinationalisation, c'est-à-dire de l'implantation multiple dans plusieurs pays, c'est les années 60 et 70. Dans les années 80, va se développer une nouvelle ère. Et nous, on l'a étudié, c'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis plus de 12 ans. C'est l'ère de la transnationalisation. Alors, personne ne l'a vu venir, hein, à part nous qui bossions dessus, mais quand on en parlait, y compris avec des syndicalistes, personne ne le voyait venir, mais on le sait, nous, depuis une quinzaine d'années. Le modèle qu'on a mis en évidence, sur lequel on a beaucoup publié, c'est le modèle de la firme en réseau. Les firmes n'ont même plus besoin de délocaliser. L'idée de délocalisation, c'est une connerie. Hein. On parle beaucoup de délocalisation, mais les firmes ne délocalisent pas. Ne délocalisent plus. Ce qu'elles font vis-à-vis surtout du tiers-monde, des pays tiers, des périphéries, comme disait Fernand Braudel, le grand historien économique, c'est qu'elles sous-traitent. Elles font de la sous-traitance. En clair, elles ferment une unité quelque part. Si la raison, c'est de faire produire autre part, la plupart du temps, elles ne font pas produire elles-mêmes. Elles font faire. elles font faire à des sous-traitants. Les exemples clés sur lesquels on bosse, enfin, sur les, qu'on présente, les études de cas qu'on présente aux étudiants depuis 10 ans, c'est l'exemple de Nike. Nike ne produit rien. Nike fait produire la totalité de ce qui est produit, des pompes. Il conçoit au départ la pompe, il fait sous-traiter en Asie, il maîtrise la distribution. Reebok, idem. Vuitton, idem. Et si vous regardez tout ce qui est consommation courante en général, c'est 90%, c'est de la sous-traitance internationale. C'est le modèle de transnational. Évidemment, là où les firmes vont s'implanter et mettre des unités, c'est là où il y a de la qualification, là où il faut garder la valeur ajoutée, la technicité, la technologie. Là, elles le gardent à l'interne. Mais tout ce qui est production, travail, elles sous-traitent au niveau international. Et c'est ce modèle qui est en train de se développer à la vitesse grand B aujourd'hui. Deuxième phénomène au niveau de la mondialisation du capital, c'est les échanges nord-nord. Il est faux de dire que, par exemple, la Chine nous pique du travail. Vous avez la vieille idée, les Chinois nous piquent du travail. C'est faux. Quand on regarde les échanges au niveau des investissements directs à l'étranger, les investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire ce que les grandes entreprises investissent à l'étranger, eh bien, les échanges se font entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. 90% des échanges, c'est entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. En clair, ils n'investissent quasiment pas dans le tiers-monde, au sens plein du terme. Troisième état de fait, les chiens de garde du capitalisme. Les chiens de garde du capitalisme sont, dans l'ordre, le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire a été créé à Bretton Woods sous la houlette, en particulier, du plus grand économiste du XXe siècle, John Maynard Keynes, bien que ce n'est pas lui qui avait les manettes, puisque c'est White, l'Américain, puisque les États-Unis étaient plus forts, mais c'est lui qui a inspiré cette idée du Fonds monétaire international. Il a été créé à Bretton Woods dans l'idée de relancer, l'idée de financer pour que le capitalisme se relance sur des bases de demande. On crée, on fait marcher la planche à billets, on crée de la demande, de la consommation, de l'investissement, et donc on ira vers un monde de croissance économique et de bien-être. Le problème, c'est qu'en 1979, avec ce retournement néolibéral dont je vous ai parlé, le Fonds monétaire international lui-même se retourne. Et à partir de 1979, le Fonds monétaire devient un instrument de politique néolibérale. Fini les politiques de demande. On passe vers des politiques dites d'ajustement structurel. En clair, le Fonds monétaire intervient, je simplifie, il intervient avec ses experts au niveau des gouvernements, ou des experts des gouvernements, il leur dit, si vous voulez qu'on prête, il va falloir mener telle politique. Et telle politique, c'est vous restructurez vos banques, vous restructurez vos industries, vous limitez vos dépenses publiques, vous avez une fiscalité où vous essayez d'avoir moins de recettes, c'est-à-dire les impôts, trop d'impôts tuent l'impôt, vous baissez les impôts, et ainsi de suite. Donc à partir de la fin des années 70, le Fonds monétaire va pousser l'ensemble des pays tiers à mener des politiques qui vont en particulier ruiner leur pays sur le plan social, mais qui vont aussi être un échec à terme. C'est ce qu'on appelait les politiques d'ajustement structurel. Et à la fin des années 80, les pays du Nord, quelle que soit leur couleur, rose, bleu, blanc, vert, ont accepté le consensus de Washington qui va dans ce sens, c'est-à-dire les pays qui veulent être financés doivent appliquer cette politique néolibérale. Le deuxième chien de garde, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale vient depuis quelques années de changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire à force d'être critiquée, en particulier à travers l'ouvrage de Joseph Stiglitz. Je vais vous en parler un petit peu. Depuis 2-3 ans, la Banque mondiale recommence à faire un peu de développement durable, se soucie des pauvres. Mais pendant près de 20 ans, la Banque mondiale a été la sœur du FMI. La Banque mondiale, elle est à Washington, de l'autre côté de l'avenue. Il y a le FMI et la Banque mondiale. On les appelle les deux sœurs. En clair, la Banque mondiale, elle sert à financer des projets sur la base de l'application des politiques néolibérales dictées par le FMI. C'est pour ça qu'ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que la Banque mondiale finance si vous appliquez la politique du FMI. À partir de là, Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie dans les années 70, premier conseiller de la première mandature Clinton aux États-Unis début des années 90, vice-président de la Banque mondiale, a démissionné à la fin des années 90 en disant « Il est impossible que ces institutions telles qu'elles sont, il est impossible qu'elles fassent des politiques qui aident les plus pauvres et qui permettent le développement. » Donc il a claqué la porte et il a écrit un livre que je vous conseille de lire qui s'appelle « La grande désillusion », qui a été traduit et qui est un livre extrêmement documenté et très chiffré, qui montre les politiques catastrophiques de la Banque mondiale main dans la main avec le FMI. Alors, cette Banque mondiale, elle n'a pas d'éthique, elle n'a pas de déontologie. Je vais vous donner des exemples, des petits exemples. Elle a refusé des prêts au Brésil sous le gouvernement Goulart dans les années 60, gouvernement élu démocratiquement, mais gouvernement de gauche qui menait des politiques plutôt de gauche. Elle a refusé des prêts au gouvernement du Chili d'Allende au début des années 70, mais par contre, elle a financé allègrement dans les années 70 la dictature, les dictatures brésiliennes et argentines et chiliennes, c'est-à-dire qu'aucun problème, vous pouvez être une dictature et assassinée et torturée, on vous financera à partir du moment où vous menez les politiques décidées par le FMI, le Fonds monétaire international. Donc la Banque mondiale n'a aucune déontologie. Et ce qui fait sourire, enfin avec de la distance, mais qui fait plutôt pleurer, c'est de voir finalement que ce qui est annoncé, c'est toujours pour les plus pauvres, mais en fait, c'est tout le contraire qui est effectué. Troisième chaîne de garde, c'est l'OMC. L'OMC n'est pas une institution. Banque mondiale, ou Bird plutôt, et FMI sont des institutions créées en 1944-45, je ne me souviens plus exactement de la date. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, est un dispositif. Tout un chacun a pu entendre à la radio les négociations au niveau de l'OMC. L'OMC est un dispositif qui a suivi le GATT. C'est un dispositif où on négocie au niveau mondial des échanges commerciaux. En clair, on arrive avec son équipe. Alors nous, en Europe, on est représenté par l'AMI, qui est un néolibéral social, enfin membre du Parti socialiste, mais néolibéral. Et on négocie, on arrive avec son équipe et on négocie le bout de gras. On a tout un appareillage, enfin, les gouvernements ont dit ce qu'ils voulaient. Et on dit, bon, l'agriculture en Europe, on ne lâchera pas ça. Donc on négocie avec les Américains sur l'agriculture. Évidemment, on a des stratégies d'alliance et à l'arrivée, il faut arriver à un consensus, un compromis. Et vous pouvez vous apercevoir qu'en ce moment, il y a des difficultés pour arriver à des compromis parce que les intérêts sont tellement divergents entre des pays du Sud, les États-Unis d'Amérique, des pays d'Amérique latine, l'Australie et l'Europe, et dans l'Europe, y compris entre la France et par exemple l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'a pas d'agriculture, nous on a une grosse agriculture, qu'à un moment donné, les compromis sont difficiles à trouver. Ce dispositif, et quand même repose essentiellement sur une croyance. Cette croyance, qui est vieille de 200 ans, c'est la croyance au libre-échangisme. En clair, tous celles et ceux qui négocient au niveau de l'OMC négocient en croyant ou en faisant mine de croire, il y a des cyniques aussi, il y a des gens qui font semblant de croire, que le libre-échangisme est la solution au problème de l'humanité. Et en développant le libre-échangisme, en faisant en sorte d'éliminer toutes les règles qui pourraient nuire au libre-échange, on va résoudre le problème de l'humanité. Alors cette idée, c'est une idée libérale d'Adam Smith qu'on retrouve à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est une croyance qui amène en fait ceux qui négocient au niveau de l'OMC à dire à des gens d'attaque, mais vous êtes fous, au niveau de l'OMC, c'est bien parce qu'on est multipartis. C'est-à-dire qu'on va créer des règles communes. On va mettre en place des règles qui vont permettre que ça se fasse en douceur. Mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient, ils s'entendent sur des règles qui vont permettre le libre-échangisme. C'est-à-dire, sans règles, le libre-échangisme n'est pas possible. Alors, par rapport à cette idée de libre-échangisme, il faut comprendre une chose. Si on prend les États-Unis d'Amérique, et là-dessus, il y a des ouvrages admirables qui ont été écrits, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été libre-échangistes. Ce sont des mercantilistes. En clair, ils font du commerce quand ça les arrange. Et quand ça ne les arrange pas, eh bien, ils mettent des droits de douane. Ça a été le cas pour l'acier, il n'y a pas très longtemps, ou c'est le cas pour l'agriculture, où ils arrivent à subventionner leur agriculture grâce aux paradis fiscaux. Et ça, on le sait, depuis 1870-1880, la politique américaine est mercantiliste, au sens théorique du terme et au sens de l'histoire de l'économie. Elle n'est pas libre-échangiste. Et les États-Unis font croire au monde entier, mais pas grand monde les croit en fait, hein, qu'ils sont libre-échangistes. Donc il y a un petit problème. Alors, je continue par le quatrième état de fait, la dépendance programmée du pays du premier cercle périphérique. Alors, prenons le cas de l'Argentine. Alors ici, ce que je voudrais montrer, c'est que ce qui se passait à travers l'Argentine, mais on pourrait parler d'autres pays, Éthiopie, crise en Asie, la Russie, c'est un cas magnifique. Ce qui s'est passé en Argentine est quand même extrêmement significatif. À la fois de la catastrophe vers laquelle on entraîne tous les pays, compris le nôtre, la France, et à la fois des résultats, je dirais, qui se vont à l'encontre de tout ce qu'on pourrait attendre du point de vue économique, de la part du FMI, qui a fait appliquer à l'Argentine une politique qui a abouti aux résultats qu'on connaît. En clair, si on est économiste, on ne peut que dire qu'il faut changer de politique. Mais ils ne le font pas. Ça montre bien que le problème n'est pas technique, il n'est pas économique, il est politique. Alors, en 1976, entre 1976 et 1983, sous la dictature, le gouvernement d'alors, c'est-à-dire les experts, hein, parce que j'imagine que les militaires n'étaient pas très, très portés là-dessus, ils s'occupaient d'autre chose, mènent un plan de libéralisation de l'économie et une ouverture au marché mondial. En clair, on libéralise l'économie et on ouvre l'Argentine au marché mondial. Il faut savoir qu'auparavant, il y avait en Argentine une vieille histoire péroniste où l'Argentine s'était structurée autour d'un nationalisme. Certains diront néo-gaullien, d'autres diront un peu tendant plutôt vers le néo-fascisme. Enfin bref, mais un nationalisme où l'Argentine s'était construite sur des bases nationales. En 1976, changement de politique, ouverture au marché mondial. L'avenir, radieux, ce sera le marché mondial. Les conséquences ne vont pas se faire attendre. Première conséquence, l'Argentine se désindustrialise. Diminution au niveau industriel, désindustrialisation, déspécialisation. Donc du point de vue économique, l'Argentine descend. Deuxième conséquence, déficit commercial chronique. En clair, l'Argentine exporte, mais exporte moins que ce qu'elle importe. Donc si vous exportez moins que ce que vous importez, vous avez une dette vis-à-vis de l'extérieur. Vous devez payer. Vous commencez à payer. Troisième conséquence, croissance exponentielle de la dette. En clair, puisqu'à un moment donné, vous devez payer, vous endettez. Fin des années 70, la corruption se généralise. Et au début des années 80, on va avoir donc un premier gouvernement démocratique qui se met en place, qui va accentuer la libéralisation, ce qui va conduire à une hyperinflation. En clair, je vous donne un seul chiffre pour bien vous faire comprendre. En 1989, le taux d'augmentation des prix en Argentine était de 4900%. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est-à-dire grosso modo du papier. L'Allemagne de 1923. Hein, le peso perd toute sa valeur. À partir de là, en 1991, un nouveau gouvernement arrive, néo-péroniste, et il se met en place sur des bases dites nationales au niveau du discours. L'objectif est de combattre l'inflation. Il faut faire tomber cette inflation. Pour la faire tomber, restructuration industrielle à nouveau et abaisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie nationale. En fait, toute la politique est une politique qui va être d'ancrer le peso sur le dollar. En clair, vous avez un peso vaut un dollar. C'est-à-dire que vous mettez une règle, une norme, comme quoi maintenant, c'est fini, la valeur de la monnaie nationale, elle vaut pendant un certain temps un dollar, quoi qu'il en soit. L'objectif est de freiner l'inflation. En clair, en faisant ça, le gouvernement ou les experts du gouvernement pensent que l'inflation va tomber, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus une augmentation de prix qui vienne de la part des imports. Et le deuxième objectif, c'est d'alléger le poids de la dette. Parce qu'il est bien clair que dans un pays comme l'Argentine, où vous payez la moitié de la dette aux étrangers, si vous perdez de la valeur monétaire, ça alourdit encore plus votre dette. Je ne sais pas si tout le monde comprend ce phénomène. Hein. En clair, si d'année après année, la monnaie nationale perd 10% de sa valeur, vous devez la moitié de votre dette aux Américains, eh bien, chaque fois, vous avez 10% en plus à payer parce que vous avez perdu 10% de valeur. Si vous ancrez le peso sur le dollar, l'objectif ici, c'est de dire on va pouvoir comme ça alléger le poids de la dette. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer la chose suivante. Premier temps, perte de compétitivité des exports. En clair, l'Argentine, par cet ancrage du peso sur le dollar, ne va plus pouvoir jouer sur les prix. En clair, elle perd en exportation. Donc, elle rentre moins de valeur dans le pays. Le déficit commercial va commencer à se creuser. Pour assurer la fixité du taux de change, un peso pour un dollar, et offrir des occasions de placement financier aux étrangers, pour que les gens investissent en Argentine, le gouvernement va décider de privatiser en masse. Il faut bien privatiser. Je veux dire, si vous voulez que les gens investissent, vous leur dites, écoutez, vous pouvez acheter un peu d'industrie pétrolière, vous pouvez acheter un peu d'industrie de télécom, vous pouvez acheter un peu de services publics à droite, un peu de services publics à gauche, venez, 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 vous pouvez acheter, on brade. Et le gouvernement va commencer à privatiser, puis à brader ses entreprises publiques. Dans un deuxième temps, il va aussi brader son système de protection sociale par répartition. Il va passer à un système par capitalisation. En clair, il va abandonner le système de sécurité sociale tel qu'on peut le connaître. Et vont se développer les fonds de pension, capitalisation. Développement massif de la spéculation, puisque grosso modo, là, on peut gagner du pognon. Hein. On achète, on vend, on achète, on vend, on achète, on vend. Et en quelques années, on devient très riche, hein, puisqu'il y a un marché qui se crée. On peut acheter des titres, on peut revendre des titres. Mais parallèlement, va se dérouler une profonde régression sociale. À la fin des années 90, 37% de pauvreté en Argentine, selon les indicateurs de l'ONU, 30% de chômage, la moitié des salaires sont inférieurs à 500 dollars, il n'y a plus quasiment de sécurité sociale. Nous sommes dans une situation qui est antérieure à celle des années 1950. En clair, la politique menée sous couvert de résultats probants et sous la contrainte du FMI, conduit un pays comme l'Argentine dans une situation qui est antérieure à la situation des années 50 sous Perón. Alors, est-ce que les résultats économiques sont probants ? Eh bien non, les chiffres sont là. Je dis bien économiques, hein, je ne parle pas de social, hein, parce que si on discute avec les experts du FMI, il faut parler économique, social, ils ne connaissent pas. La dette extérieure argentine est passée de 8 milliards de dollars en 1975 à 135 milliards de dollars en 2003. Je dis bien de 8 milliards de dollars en 1975 à 135 milliards de dollars en 2003. Elle représente la moitié des recettes d'exportation. En clair, pour pouvoir payer cette dette, chaque année, l'Argentine doit mettre la moitié de ses recettes d'export. Et elle représente un quart, 25% des recettes fiscales au niveau de l'État. Les recettes fiscales servant en priorité à rembourser annuellement la dette et la politique de défiscalisation diminuant les recettes, puisque l'Argentine a mené parallèlement une politique de baisse des impôts, l'État est pris dans l'engrenage, endettement pour payer les intérêts, diminution des services publics, qui va entraîner une baisse drastique du paiement des fonctionnaires. Les fonctionnaires ne seront plus payés à un moment donné. Et des non-renouvellements de postes, c'est-à-dire que les gens qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. Finalement, l'accroissement de la rente financière des capitalistes nationaux va favoriser l'évasion fiscale. On estime en 2002 l'évasion fiscale, c'est-à-dire la fuite des capitaux, à 120 milliards de dollars. Donc sur cette année-là, 120 milliards à peu près de dollars sont partis dans d'autres pays, États-Unis ou dans les paradis fiscaux. Quels sont les grands gagnants ? Les grands gagnants, d'une part, sont les capitalistes et les affairistes de tous les pays. Unissez-vous. Et d'autre part, les transnationales, à capitaux publics et privés. Alors là, attention, attention les yeux, parce qu'on retrouve Suez pour la France, qui a beaucoup investi dans cette période-là en Argentine. Mais on retrouve France Télécom, on retrouve EDF, à côté de Carrefour, Casino, Auchan. Enfin bref, les grandes entreprises publiques françaises ont participé au saccage de l'Argentine. Et c'est bien malheureux qu'il n'y ait pas eu, d'une manière ou d'une autre, une solidarité internationale à ce niveau. C'est-à-dire que le problème n'est pas forcément d'entreprise privée. Alors, à partir de là, la dette est au cœur de la pérennisation du capitalisme. Elle est au cœur de la pérennisation du capitalisme. Et là, je vais essayer de poser le problème en deux temps. La dette, c'est d'abord un processus de captation de la valeur. L'objectif de la dette, c'est de capter de la valeur. En clair, quelles sont les logiques de captation ? Dans le film, pour ceux qui l'ont vu, vous avez pu voir à un moment donné la logique de prix de transfert. En clair, à travers la dette, on fait passer de la valeur d'un pays à un autre. Hein ? On te prête tant, mais tu vas rembourser le double. Et on te pompe. Ça s'appelle le mécanisme de prix de transfert qu'utilisent beaucoup les transnationales. Dans le film, c'est grosso modo, je te fais un taux d'intérêt au niveau de ton prêt à 30%, donc je te fais payer un max. Par contre, toi, dans notre pays, je te rémunère qu'à 5%. Et je prends les 25 points de différence. Tout le monde a pigé ? Voilà, je vous prête monsieur à 30% et vous me donnez l'argent que je vais lui prêter et vous, je ne vous rémunère qu'à 5%. Les 25 points, c'est pour moi. Et je le fais sur une grande échelle. Je fais tourner le moulin, comme on dit dans le film Les Nouveaux Russes, là, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, et on encaisse, et on encaisse, et on encaisse. Donc, c'est des logiques de prix de transfert et de captation de la valeur. Il y a aussi des logiques d'effets de levier. Donc, c'est ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire on fait des effets de levier chaque fois pour encaisser la rente. Évidemment, derrière ces logiques de captation de la valeur, la démocratie est en péril. Parce que d'une part, on assiste à une très forte concentration du capital. Parce que derrière l'affairisme, derrière ceux qui font du pognon grâce à la spéculation, il y a l'assujettissement. Assujettissement en termes de concentration du capital. En France, par exemple, Dassault, aujourd'hui, est le maître des médias, vous le savez peut-être. Dassault a racheté, je ne sais pas, bon, les deux tiers des médias, ou la moitié des médias français appartiennent à Dassault. L'autre moitié pouvant appartenir aussi à Lagardère. Enfin, à l'arrivée, il faudrait voir la structure du capital des médias en France, mais je crois qu'à eux deux, ils doivent être entre les deux tiers ou les trois quarts des médias français. Donc c'est énorme. Donc ici, on a un assujettissement qui est au niveau du pouvoir que certaines détiennent, mais qui va jusqu'aux médias, c'est-à-dire qu'ils détiennent tout, y compris les réseaux de communication. Donc la démocratie est en péril. Et deuxièmement, comme disait Joseph Stiglitz dans une conférence à Marseille, la mondialisation vise à remplacer les dictatures des élites nationales par la dictature de la finance internationale. En clair, aujourd'hui, les gouvernements, et c'est là où il faut vraiment que le citoyen se réveille, ne peuvent plus, dans les conditions actuelles, mener les politiques qu'ils désirent. C'est la finance internationale qui gouverne. En clair, demain, on élirait un gouvernement, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. On irait au gouvernement de gauche demain en France, le gouvernement ne pourrait pas changer de politique. à part vraiment d'avoir des bases solides, c'est-à-dire des bases européennes solides, des bases militantes solides, on y reviendra, et donc d'être fort sur ses jambes. Sinon, les difficultés, c'est que le gouvernement est face à une finance internationale qui retrisse ses billes à la moindre politique qui va à l'encontre de ses intérêts. Donc c'est une dictature qui n'est plus une dictature directe. La dette, maintenant, comme variable nécessaire aux dynamiques de croissance économique. La dette, ça sert à pérenniser le système. Alors, il y a deux voies sur lesquelles j'y réfléchis. La première voie, c'est les logiques d'accumulation de la dette dans les pays dits développés. Dans nos pays, on est très endettés. La France a une dette, je vous l'ai dit au départ, 60% de la richesse économique. L'Allemagne aussi, c'est 60% de la richesse économique. Les États-Unis, c'est 50%, ainsi de suite. Donc la dette, ce n'est pas un problème du tiers-monde. C'est un problème général du système. À quoi sert cette dette ? Pourquoi ces pays sont endettés ? D'une part, parce que nous sommes dans des pays à forte innovation technologique et à investissement de productivité. Donc il faut financer. Il faut financer la productivité, il faut financer les investissements, il faut financer la recherche et le développement. Et la plupart du temps, ça se finance par la dette. Deuxièmement, ces investissements de productivité permettent de développer ce qu'on appelle de la profitabilité. En clair, l'objectif ici, c'est grâce à ces investissements de productivité, on licencie beaucoup de gens, on va plus vite, on produit plus vite, ce qui permet de dégager plus de marge, mais cette marge elle va être comparée en fait, au taux d'intérêt auquel on emprunte. J'emprunte à 6%, mon taux de rentabilité est de 10%, je gagne 4 points. Donc j'emprunte à 6%. Si maintenant j'emprunte à 6% et mon taux de rentabilité n'est que de 5%, ça ne sert à rien, puisque je suis à moins 1 point. Donc il y a ici la notion de taux de profitabilité, l'idée étant qu'il faut augmenter le taux de rentabilité pour faire de plus en plus de marge. Et c'est là où on a les techniques, on a ce qu'on appelle à attaque les licenciements de convenance boursière. L'idée ici, c'est d'augmenter le taux de rentabilité pour le faire passer à 12%, 13%, 14%. En clair, faire en sorte que le capital dans lequel j'ai investi, qui me permet d'aller de plus en plus vite, ça me rapporte de plus en plus vite et de plus en plus haut. Pour cela, il faut que je sois de plus en plus productif, augmenter la productivité, et que je paye de moins en moins mes ressources humaines, donc licencier de plus en plus. Troisième point, consumérisme et élargissement des débouchés. Nous sommes des pays, surtout les États-Unis d'Amérique, dette privée des États-Unis d'Amérique est liée à la consommation de masse, mais dans nos pays c'est le cas aussi, on a beaucoup de ménages qui sont surendettés, la fameuse loi sur le surendettement. L'idée c'est que la dette va servir en fait à ce que des milliers de gens, des centaines de milliers de gens continuent à consommer. Parce que si ces gens ne consomment plus, eh bien on ne peut plus écouler la marchandise. Donc on les endette. On les endette pour que le système fonctionne. Parce que s'ils ne consomment plus, à ce moment-là, il y aura une véritable récession économique. Et donc le consumérisme lié à la dette permet d'élargir les débouchés. On produit de plus en plus, il faut donc vendre de plus en plus, donc il faut que les gens consomment de plus en plus, donc il faut les endetter. Mais derrière cette dynamique, cette dynamique de croissance économique, l'écosystème, du point de vue écologique, est en péril. D'une part parce que le productivisme auquel on assiste détruit massivement l'environnement, je vous ai fait un dessin, on pourra en reparler, et deuxièmement parce que le consumérisme est lié à l'utilitarisme, on est de plus en plus, on agit de plus en plus consciemment ou inconsciemment en fonction de son intérêt. Il y a une perte de sens profonde, une forme de déshumanisation au niveau des valeurs, c'est-à-dire que même dans les organisations où on pourrait penser qu'on est tous frères, eh bien là aussi on s'aperçoit que souvent les stratégies d'acteurs existent, que c'est vraiment par intérêt. Et on a parallèlement une hausse exponentielle des déchets. Donc d'un côté, utilitarisme, consumérisme, de l'autre côté, on ne sait plus quoi foutre des déchets, comment on va les traiter, comment on va traiter. Alors bon, dans les pays du tiers-monde, on ne les traite pas, donc on les laisse. Même on les stocke, c'est-à-dire comme ils sont endettés et qu'ils ont besoin de produire quelque chose, on leur dit « vous ne voulez pas un peu des déchets nucléaires ? On vous paye pour ça. » On les prend, venez, mettez-les là. Donc on ne traite pas les déchets, on prend les déchets des autres. Et puis dans certains pays, comme le pays méditerranéen, on traite mal, on ne sait pas traiter. Des fois ça tombe en panne, des fois c'est pas traité. Et puis il y a quelques pays dans le monde où c'est à peu près bien traité, mais même sur le traitement des déchets, il y a un retard profond. Quelles alternatives envisageables à moyen et long terme ? Je terminerai là-dessus. Parce que bon, il faut donner quand même un petit peu d'espoir par rapport à ce phénomène. Tout d'abord, je dirais que pour qu'il existe des alternatives envisageables, je dis bien envisageables, il faut reconstruire un rapport de force sociale. on a 10 ans pour ça. Je pense que là, on va reculer, on va continuer à reculer. Il y a des poches de résistance, mais qui cèdent les unes derrière les autres. Je pense qu'il y a 10 années à peu près de recul. Il faut que dans ces 10 années, on s'organise, on se structure, que cette structuration et cette organisation, elle repose sur 4 principes. Premier principe, il faut redevenir internationaliste. On a perdu l'idée d'international depuis longtemps. Je pense qu'on ne pourra lutter contre ce que je viens de vous décrire qu'à travers des internationales. Deuxièmement, il faut être intercorporatiste. Il faut lâcher tout corporatisme. On voit ce que ça donne, par exemple, sur les luttes corporatistes dans les services publics. Elles sont perdantes. Elles ne peuvent que perdre. Hein. Je pense que EDF, GDF, ils gagneront pas. Ils ne peuvent pas gagner. Ils ont été trop corporatistes. Ils ne peuvent pas gagner. Enfin, ça, c'est mon point de vue aussi. On peut en reparler. Hein. Donc, il faut maintenant recréer des mouvements intercorporatistes profonds. Il faut aussi créer des mouvements interclassistes. Les rapports de classe ont vécu. Pour qu'il y ait classe, il faut qu'il y ait conscience de classe. On est très loin de la conscience de classe. On peut appartenir à une classe et ne pas vouloir y être. Donc on va s'acheter les pompes d'une autre classe. Moi, je crois qu'il faut recréer des rapports interclassistes et montrer que, par rapport à l'idée d'alliance avec les classes moyennes tout à l'heure, il faut montrer que ici, en France ou en Argentine, la très grande majorité de la population ont les mêmes intérêts. Intérêts généraux sont les mêmes. Donc dans un premier temps, il faut être interclassiste et après on débattra à nouveau en termes de rapports de classe. Et enfin, il faut revenir à des rapports intergénérationnels. Alors, je ne sais pas comment ça se passe en Argentine, mais nous, dans les vieux pays, on a des césures, une véritable dichotomie entre les jeunes et les vieux. Hein. Et je pense qu'on le voit dans les organisations. Les organisations sont vieilles. Les jeunes ont du mal à y venir, ont du mal à y rester, ont du mal à prendre des responsabilités. Et il y a un gros boulot à faire de ce côté-là. C'est sur ces 4 principes qu'il faut reconstruire le rapport social. Alors, sur la base d'un projet politique. Alors le projet politique, il a 4 dimensions d'après moi. La première dimension, pour ne pas se leurrer, comme on dit à Arles, parce qu'on est à Arles, on aime bien la tauromachie, pour ne pas se leurrer, il doit être idéologique. C'est-à-dire le combat doit être mené d'abord sur un plan idéologique. Il n'est pas technique. Hein. Techniquement, à TAC, on a fait des propositions sur la taxe Tobin, on nous a écoutés. Il n'y a pas eu de on ne nous a pas contrecarré sur la taxe Tobin. Les propositions qu'on a faites du point de vue technique, on n'a jamais eu des contre-propositions sérieuses. Donc le débat n'est pas technique, il est idéologique. On doit regagner en termes d'hégémonie idéologique. Deuxième dimension institutionnelle, il faut s'organiser. C'est clair, un projet politique n'existe que quand il y a une organisation institutionnelle. Cette organisation institutionnelle doit être absolument réticulaire et transversale et horizontale. Les vieilles organisations hiérarchiques ont vécu. Les vieilles organisations centralisées, de type centralisme démocratique, ont vécu. Il faut aller vers du réseau. À mon avis, c'est les structures en réseau, beaucoup de gens travaillent là-dessus depuis longtemps, qui sont les structures d'avenir. Troisième dimension, l'organisationnel. Il faut absolument donner du souffle à l'organisationnel, c'est-à-dire donner de l'autonomie dans l'activité, de la responsabilisation, mais de la vraie responsabilisation, de la vraie autonomie. Je veux dire par là qu'il n'y a pas des donneurs d'ordre et des militants de base. L'organisation se joue de manière transversale, horizontale, autonomie, responsabilité. Et quatrième niveau, activationnel, on ne pourra pas mener, je dirais bien, un projet politique si on est 4 Pékin. Aujourd'hui, en France, il y a entre 6 et 7% de syndiqués. Les militants sont extrêmement marginalisés. On ne pourra pas changer quoi que ce soit si on ne revient pas dans l'activité elle-même. Dans l'activité militante elle-même. Alors, quel est le contenu de ce projet ? Moi, je donne quelques directions de contenu. Je ne détiens pas la science infuse. J'y réfléchis, j'ai repris un peu des propositions d'attaque, de Copernic, et des propositions que des économistes du tiers-monde peuvent faire. Première proposition, annuler la dette. Annuler la dette sur la base de 2 principes de droit international. Premier principe, la dette odieuse. C'est un principe de droit international. En clair, un pays comme l'Argentine qui se tire une dette, qui se traîne une dette liée au départ à une dictature, elle doit clairement, ce pays doit dire, on refuse cette dette. On ne reconnaît pas la dictature. Un peu comme pendant la Révolution russe, on ne reconnaît pas le gouvernement précédent. Une dette odieuse ne doit pas être payée. Il faut savoir qu'en Argentine, la dette a été multipliée par 6 entre 1976 et 1983. Par 6. Non reconnaissance. Toujours annuler la dette parce que la dette correspond à des cas de force majeure. Du point de vue du droit international, on peut invoquer pour annuler la dette et pour ne pas la rembourser, par exemple, le fait que cette dette est liée à des politiques monétaires erronées. Si on est endetté, c'est parce que le FMI, le Fonds monétaire international, nous a fait mener des politiques qui sont erronées. Et donc, ce n'est pas à nous de payer cette dette, c'est au FMI. Et puis, toujours annuler la dette, on peut aussi dire, mais pourquoi nous devrions payer une dette alors même que certains ne la payent pas, Je vous donne le cas de l'Argentine et de la Turquie. À la même période, l'Argentine a renégocié un nouveau prêt avec le FMI. 8 milliards à l'époque, c'était des ordres là. Je crois que l'Argentine a obtenu 3 milliards. À la même période, le FMI a prêté entre 25 et 30 milliards de dollars à la Turquie. Pour quelle raison ? Parce que la Turquie était en banqueroute, va aller vers une crise financière très grave qui mettait en péril toute la structure politique turque. Et la Turquie, vous avez pigé, c'est une plaque tournante par rapport aux États-Unis d'Amérique, mais par rapport à l'Europe. Il ne fallait absolument pas que la Turquie tombe. Donc on a tenu à bout de souffle la Turquie. Pour quelle raison ? Suivant quelles règles d'efficacité ou quelles règles éthiques on donnerait 25 à 30 milliards à la Turquie et on refuserait 8 milliards à l'Argentine ? Donc, ça se tient du point de vue du droit et du point de vue de la justice. Deuxième niveau de contenu du projet, encadrer les marchés financiers. Ça, c'est les propositions d'attaque. Il faut revenir à une réglementation des marchés financiers. On a beaucoup de techniques pour encadrer les marchés financiers. Ça a déjà été fait. Et les pays qui n'ont pas été en crise en Asie pendant la crise financière sont les pays qui ont encadré leurs marchés. La Malaisie, la Chine. Pays qui sont passés à travers la crise. Ce qui montre qu'il faut absolument revenir à des techniques d'encadrement du marché. Toujours dans l'encadrement des marchés financiers, il faut contrôler les mouvements de capitaux. Alors, contrôle les mouvements de capitaux au niveau des nations et entre les nations. Par exemple, au plan européen, on pourrait tout à fait mettre en place des règles pour contrôler le mouvement des capitaux. Troisième proposition, prendre des mesures juridiques internationales à l'encontre des paradis fiscaux. Attaque, entre autres, a beaucoup réfléchi là-dessus. Vous savez que la France, par exemple, qui est un pays extrêmement démocratique, possède 6 paradis fiscaux autour de nous. Donc si vous êtes capitaliste, vous avez le choix. Vous mettez quasiment en concurrence ces paradis fiscaux pour savoir où vous allez mettre votre pognon. Donc là, il y a un problème par rapport à ces paradis fiscaux. Ce problème a été mis en évidence lors de l'attentat de New York par rapport à l'équipe Ben Laden. C'est-à-dire les experts sont allés jeter un coup d'œil. Ils sont allés voir si les quelques comptes Ben Laden ne traînaient pas dans les paradis fiscaux. Puis ils sont vite revenus. C'est-à-dire que s'ils veulent, ils peuvent. C'est encore, disons, une mesure politique à prendre du point de vue technique. Il n'y aurait pas de problème. Troisième niveau, porter des modèles de développement socialement équitables et écologiquement durable. En clair, si la dette existe, c'est aussi parce que ce type de développement est inadéquat. On est sur des processus de développement qui tournent le dos à l'équitabilité, à la justice, je dirais à une certaine égalité entre les nations, comme dirait le bon vieux libéral Adam Smith. Et puis d'autre part, ce sont des modèles qui sont écologiquement non durables. À l'allure où on va, à mon avis, dans une centaine d'années, nous n'aurons plus le monde dans lequel on vit, peut-être avant. Donc il faut resocialiser et reconsidérer la richesse. Alors je ne vais pas développer, Patrick Viveret a beaucoup travaillé là-dessus. Ça veut dire en clair qu'il faut reconsidérer la richesse. La richesse, ce n'est pas seulement de la valeur ajoutée. La richesse, ce n'est pas seulement du sonnant et trébuchant. Qu'est-ce que ça veut dire, la richesse ? Et aujourd'hui, il y a des économistes et des anthropologues qui travaillent là-dessus. Ils s'interrogent et ils disent qu'il faut reconsidérer la manière dont on va mesurer, dont on va quantifier la richesse. Il faut la resocialiser dans le sens où la richesse ne doit pas aller sur les marchés. La richesse doit être le plus possible extraite, abstraite des marchés. Il faut taxer les transactions financières, taxe Tobin, donc si vous voulez on en reparlera. L'application d'une taxe Tobin suivant les estimations qu'a fait Attac, l'application d'une taxe Tobin à 0,1% sur les transactions financières, sur la spéculation mondiale, devrait rapporter à peu près 100 milliards d'euros par an. 100 milliards d'euros par an. Alors vous savez qu'aujourd'hui la Belgique est en train de rentrer dans la taxe Tobin, mais bon, c'est très long. Je pense que l'application d'une taxe Tobin irait dans le sens justement de mettre en place un système où les recettes iraient vers un fonds social écologique et un fonds de développement social pour l'éducation, pour la culture, pour la santé. Et puis si on suit la CNUSED, c'est-à-dire un organisme, une institution de l'ONU, il faut instaurer un impôt sur le patrimoine des grosses fortunes servant des finalités précédentes. En clair, l'impôt sur les fortunes, ce n'est pas vieillot, au contraire. Il faut le mettre en place, mais pas sur des bases nationales. Il faut imposer ça sur des bases européennes. Sur les bases européennes, il faut l'impôt sur les fortunes, sur les patrimoines, et pas sur n'importe lesquels, les patrimoines. Je pense que c'est important. Évidemment, toujours par rapport à ces modèles de développement socialement équitable et écologiquement durable, il convient de réfléchir sur l'armement. Je vous donne juste une information. Est-il surprenant qu'en France, nous n'ayons aucune info sur les dépenses d'armement, sur le contenu de ces dépenses ? Qui en profite ? Quand je dis qu'il n'y a aucune info, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport parlementaire. Il y a eu un rapport parlementaire il y a 4 ans, c'était le premier depuis 30 ans. Maintenant, par hypothèse, je dirais que ceux qui en profitent avant tout, c'est Dassault et Lagardère. C'est-à-dire, si la France aujourd'hui, dans son budget public, dépense 20% de son budget public pour l'armement, c'est pas pour l'emploi, comme le disait la CGT il y a encore quelques années. Non, c'est pour financer Lagardère et Dassault, essentiellement. Et pour faire en sorte, à un moment donné, qu'ils puissent produire des modèles qui seront vendus par la suite à des pays du tiers-monde, et ces pays s'endettant pour acheter nos armes. Donc là aussi, il faut absolument changer de modèle. Et pour changer de modèle, il faut être courageux, il faut être fort. Et quatrième direction, je terminerai là-dessus, il faut revenir au modèle de développement endogène et intégrer régionalement. Il faut arrêter avec l'idée que le bien-être viendrait du libre-échangisme, que l'Algérie va se développer parce qu'elle va s'ouvrir au monde entier. Non. Il y a quelques années, en 1986, on avait monté un modèle économique où on disait le développement pour le Nord-Maghreb, c'est une union, mais ça s'est fait à peu près, mais après ils ont arrêté, union régionale entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, parce qu'au niveau de la division internationale du travail, au niveau de leur spécialisation, ils sont très complémentaires. Ils ne produisent pas les mêmes choses. Donc ils pourraient changer entre eux. Ils deviendraient plus forts et ça deviendrait, disons, ils se développeraient véritablement suivant leurs propres normes, leurs propres valeurs. Alors évidemment, tout cela nécessiterait non seulement de condamner et de mettre fin au plan d'ajustement structurel du FMI, évidemment, ça nécessiterait d'affronter les firmes au réseau global, en particulier donc les grandes firmes des télécoms et de l'armement, et puis remettre en cause l'échange illégal de l'OMC. Mais finalement, ça permettrait de faire un bilan humain des politiques d'ajustement structurel depuis 25 ans. Et on verrait en fait que ces politiques ont été souvent à l'origine des guerres civiles, des morts par milliers, par centaines de milliers. Et si on faisait le livre noir du capitalisme depuis plus de 20 ans, on s'apercevrait que le capitalisme depuis 20 ans, ce sont des millions et des millions de morts, hein, directement ou indirectement. Merci.